Merci à tous. Au revoir.
Maman Africa, j'ai toujours rêvé de voir tes enfants unis. Oui, j'ai toujours rêvé de voir les enfants de la diaspora épanouis. Mais aujourd'hui, quand je vois Maman Africa, je me dis, si le rêve est encore permis. Maman Africa déchirée par l'esclavage. Maman Africa dépouillée par la colonisation. Maman Africa endettée par le FMI et la Banque mondiale. Maman Africa divisée par l'idiotie de ses dictateurs et l'hypocrisie de l'Occident face à ses maux. Conscience internationale africaine a semé ses graines dans la souffrance, la frustration et l'humiliation de tes enfants. Marcos Garvey l'avait prédit, Malcolm X en a consacré sa vie, Thomas Sankara contre l'oubli. Génération sacrifiée, génération charnière, l'heure de la rédemption a sonné. Enfant de la diaspora, Maman Africa t'appelle. C'est le souffle de tes ancêtres. Parqués dans les ghettos, ils t'ont servi la culture de l'arrogance et de l'extravagance, la culture de l'apparat et du m'as-tu vu. Et tu t'éloignes des chemins de l'humilité nécessaire pour acquérir le savoir et la connaissance. Le savoir et la connaissance. Et te voilà dépouillé de la seule âme qui peut te libérer de tes chaînes. Maman Africa. Harlem, Parcelle, Sarcelle, même donne. Poissa, quartier nord, même donne. Trèche-Town, Trècheville, même donne. Jeune du ghetto, réapproprie-toi l'éducation et marche le chemin de ta liberté. Parce que seul toi pourras te libérer de tes chaînes. Bronx, Watts, même combat. Gorée, Tartiré, même combat. Soweto, Bobo Hill, même combat. Yopougon, Dillon, même combat. African Diaspora, même combat. Mama Africa. Mama Africa.
Mama Africa. Mama Africa. Mama Africa. Mama Africa. Mama Africa. Mama Africa. Oh, Mama Africa. Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa, Mama Africa.
Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonjour. Bienvenue sur Radio Galère 88.4. Menace de la bande FM sur Marseille. Ces extraits, merci les petits jeunes, notre jeune espoir, animateur Jimmy. Nous aurons deux reportages, un qui sera diffusé, la cérémonie funéraire de Dr Issa Kone. Un grand beau monde, même un président, même un ministre n'aura jamais autant de ce monde, la qualité de ce monde, pour l'accompagner à sa dernière demeure. Nous aurons bien sûr deux reportages, un privé pour la famille que j'ai rencontré, d'ailleurs son fils qui vous remercie. jazz pour accompagner son papa. Simon Jocar et Simon Pierre, musulman de Saint-Jérôme. Merci beaucoup.
Voilà, avant de laisser la parole à...
Et je vous rappelle donc avec l'artiste renommé, notre coqueluche, notre petite étoile, il s'agit de Bint Sadakiam, qui nous interprète cette chanson, afin de vous dire tout simplement à vous, Ramadan Mubarak, à tous ces fidèles, comme chaque année, ces rituels, les mêmes rituels, et les mêmes aussi actions avant, pendant, après, un pardon. Sada, qui chante notre coqueluche, Oumou Kalsoum Junior, à tous les musulmans et enfants du monde, la paix dans le monde entier. Vos prières, nos prières, pour que ce mois de Ramadan finisse en beauté. Et le pardon individuel et l'heure humaine. Je vous laisse le soin d'écouter Sada Kiam. Sadakiam a fait le tour de l'Orient, du Moyen-Orient, de l'Afrique en général. Nous l'avons demandé, formulé comme chaque année, nous consacrons, vous demandez pardon, le pardon est divin, l'erreur humaine, comme on vous pardonne aussi, on vous demande le pardon. Il faut que notre langage soit dépourvu de tout mensonge. Faisons des efforts. On a un peu de temps pour chacun, pour sa famille, ses voisins, ses amis. On a une grande pensée pieuse à tous nos défunts qui nous ont quittés, que ce soit nombreux de la radio, d'autres radiotypes, et voir le monde entier, en tout cas. Toutefois, le destin jaloux le veut autrement. N'attendons pas le mois de Ramadan pour demander pardon. N'attendons pas le mois de Ramadan pour essayer d'être aussi correct et égal à lui-même. هناك شيب وشيب لا في طرف من جنة الله رب المملكة المغربية. Notre Oumou Kalsoum Junior, je vous rappelle, Bint Sadakiam, qui vous souhaite aussi un bon mois béni, un mois de Ramadan, qu'elle soit bénéfique pour nous tous. Elle est sénégalaise. Elle fait le tour du monde. Elle est dans des actions. Ramadan Mubarak. Dans la paix, la justice pour tous. Ramadan Mubarak, ceux qui nous ont pris en cours, je vous rappelle donc qu'il y avait un hommage à Dr. Kone, du monde, un bouillon du monde, blanc, noir, jaune, de toutes les communautés ont répondu un adieu à Dr. Kone, donc devant la mosquée Bilal. Remercions le recteur, remercions les fidèles et éventuellement chez nous, il n'y a pas un bon mort ou un mauvais mort. Et je pense aussi, il faut d'abord saluer les hommes, les femmes publiques et qui donnent leur temps, leur vie. Une mission, une semi-mission, mais nul ne sait comment nous finissons dans la vie. Et c'est ce qui est regrettable. Entre les destins jaloux, avant qu'ils nous réduisent ensemble, on vous laisse nourrir les racines de votre vie. Prenons un peu de temps pour d'autres et ça ne ferait être bénéfique. Alors, c'est de cette chanson d'ailleurs de Sade Bint Tiam pour rappeler donc à tous les fidèles de avant, pendant, après. Soyons irréprochables, ça c'est très important. Voilà, ne choisissons pas le mois de Ramadan pour ne pas tricher, pour ne pas voler et pour ne pas influencer. Et voir le voisinage, il est inscrit dans tous les livres sacrés, particulièrement d'ailleurs le Coran et le Karim. Votre voisin, c'est capital. Prenez soin de lui. Alors, après, je ne suis pas ni ce conférencier, ni moins dans les lectures. Et nous laisserons justement les soins. Et comme ce n'est pas approprié d'inviter des amis illustres qui peuvent nous éclairer, ben on laisse le soin de chacun. Tout le monde a fait une petite lecture. C'est la tradition qui nous manque. Dimanche dernier, on avait commencé à rendre hommage à Cheikh Anta Diop. Il est parti, mais il a laissé un héritage aussi riche. Et de Théophile Obenga, nous avons aussi rendu hommage à un écrivain journaliste. Après donc, sa participation de cette semaine avec le président Macron, avec des journalistes, avec des invités à Montpellier, c'était Amobé, Mevenge, qui était le passeur des cultures. Il a disparu, il nous a quittés à 52 ans, le 8 septembre. Et là, il nous rend hommage à Théophile Obenga, qui est encore parmi nous, et que nous souhaitons qu'il vive aussi longtemps. À d'autres artistes qui sont venus rendre hommage à Thomas Sankara. Et à d'autres artistes aussi, qui font partie, justement, comme le baobab, sa puissance, elle est dans la graine. La graine qui rejaillit dans ce qu'on appelle chercheur pour être chercheologue. Et nous avons aussi, bien sûr, des gens qui, aujourd'hui, écrivent la mémoire et sont aussi nos intellectuels qui avéraient pour transmettre à la jeune génération le silence et l'absence. Nous sommes tous comptables de ce qui nous arrive dans ce monde aujourd'hui.
Bienvenue, c'est Africanité. Elle est pas belle la vie? Aujourd'hui, nous rendons hommage à Cheikh Anta Diop. On va parler des pyramides qui ont inventé la plus flamboyante des civilisations, la première de la planète. L'arithmétique, les mathématiques,
l'esmesmesmique et tout ça. Formidable.
Derrière moi, la quintessence de l'humanité musicale pharaonique. C'est une légende. Bassido, Guinée-Bissau. Commence par. La mort ou la vie?
Je suis
nous vaincrons.
Burkina Faso. Le 17 octobre 1987. Ce fut d'abord le Mumba, Kwame Nkrumah après, Amilcar Cabral a suivi. Aujourd'hui c'est toi Sankara, toi qui étais le miroir, dans nos cœurs un espoir, toi qui étais l'étoile du Nord, tu viens aussi de trouver l'amour, comme l'homme est méchant et cruel, ton rappel tu es immortel. Comme l'homme méchant et cruel, ton rappel.
Nous invitons nos animateurs, animatrices, de ne pas trop toucher cette console qui est si innovante, qui est si neuf. Et malheureusement, ils n'ont pas dû nous mettre en désordre. Et on a rectifié, bien sûr, le tir.
Comme l'homme méchant et cruel, ton rappel, tu es.
Comme un homme malvade et cruel, dorme en paix, tu es immortal. Comme un homme malvade et cruel, dorme en paix, tu es immortal.
Son quien confirma Kutakae.
Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine culture et société de TV5 Monde pour aborder ce mois-ci le thème de l'héritage de Cheikh Anta Diop. Le grand savant sénégalais au menu encore dans cette émission. Grâce à vous, Lise-Laure et Tia, eh bien, zoom sur l'actualité culturelle cinématographique en compagnie d'une invitée de marque.
Oui, on va recevoir la cinéaste nigérienne Ramatou Keita qui viendra nous présenter son nouveau film Zinaria, l'Alliance d'or. C'est un film qui a été primé au FESPACO et qui, sur le plan international, reçoit un très bel accueil.
De la littérature également, plus aucun secret, comme chaque mois, vous le savez. Avec vous, Christian Eboulet, place à la bande dessinée africaine.
Absolument, des hommes et des femmes qui mettent en avant l'histoire africaine. C'est de ça dont on parlera tout à l'heure.
De la musique également au programme de cette émission pharaonique, diantre, devrais-je dire, en compagnie d'une authentique légende de l'épopée des musiques africaines. Il est originaire de la Guinée-Bissau. C'est l'un des pères fondateurs de la modernité de cette région d'Afrique autour du Mgoumbe, notamment. notamment et des racines culturelles, notamment aussi dans cette émission, pour un hommage à Thomas Sankara. Mais sans plus attendre, nous accueillons notre grand témoin pour évoquer l'héritage de Cheikh Anta Diop, dont vous avez été le disciple. Théophile Obenga, soyez le bienvenu. Bonjour.
Bonjour, je vous remercie beaucoup.
Merci d'être avec nous. Vous êtes égyptologue, linguiste, historien. Nous allons essayer d'embrasser 5000 ans de civilisation, de culture. C'est un peu vaniteux, mais nous allons tenter de le faire. En revenant notamment sur votre parcours, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des circonstances, on va dire presque inattendues, de votre première rencontre avec Cheikh Anta Diop? C'était en 1969 à l'UNESCO.
Oui, j'ai connu Cheikh Anta Diop à travers un ami camerounais, Joseph Mbouy, qui m'avait incité à lire le livre de Cheikh Anta Diop. Et puis la rencontre physique a eu lieu à l'UNESCO en 69. Cheikh Anta Diop a assisté à un colloque sur l'évolution de l'humanité. Et on s'est rencontrés. Je suis arrivé quand j'étais en pause. J'ai demandé où était Cheikh Anta Diop. Il était dans les toilettes de l'UNESCO. J'ai pas hésité à le poursuivre là-bas. Et puis c'est là.
Tellement vous étiez impatient.
Impatient. Puis j'ai dit, c'est vous, Cheikh Anta Diop. Il m'a dit, c'est vous, Obenga. Comme si on se connaissait depuis de longues dates. Ce fut vraiment un moment pour moi très saisissant.
Sans plus attendre, avec votre permission, je propose de découvrir le portrait qu'Africanité adressait de vous.
J'ai grandi ici. Et on est venu ici, j'avais peut-être 7 ans. 7, 8 ans.
Né en 1936 dans le nord du Congo, en pleine période coloniale française, c'est dans ce quartier de Brazzaville que Théophile Obenga grandit et découvre très tôt qu'il est un enfant précoce. Un enfant doté de facultés intellectuelles exceptionnelles.
Au lycée, le proviseur s'appelait Monsieur Kévreux. Mon père ne parle pas français, mais Monsieur Kévreux a quitté le lycée savoyen de Brazza et est venu sur la rue Babembe voir mon père. Il disait, mais c'est pas possible, vous habitez comme ça, puis vous êtes brillant. Et il n'en revenait pas, quoi. Parce que chez eux, il faut avoir une famille bien placée pour être brillant.
Issu d'une famille modeste, Théophile Obenga est né d'un père ouvrier mécanicien et d'une mère paysanne. Élève brillant, il effectue ses études primaires au début des années 40 dans cette institution catholique de Brazzaville. Puis, ce sont les études secondaires qu'il effectue notamment ici au lycée Savorien de Brazza. Il y découvre l'une des dures réalités de la colonisation, l'infériorité supposée des Noirs par rapport aux Blancs.
Ça m'avait beaucoup ému au lycée. Un très bon professeur de français a dit que la différence entre nous les Noirs et eux les Blancs, les Européens, c'est qu'ils écrivent. Ils écrivent leurs idées, leurs pensées, leurs émotions, leurs sentiments. Ils écrivent. Et nous, nous n'écrivons pas. Donc d'où notre infériorité.
Au début des années 60, Théophile Obenga rejoint l'université de Bordeaux en France pour y poursuivre des études de philosophie. Avide de connaissances, il met un point d'honneur à lire toutes les publications concernant l'Afrique et les mondes noirs. C'est ainsi qu'un jour, l'un de ses amis lui conseille la lecture de « Nations nègres et cultures » du grand savant sénégalais Cheikh Anta Diop. Pour lui, c'est la révélation.
Quand j'ai lu « Nations nègres et cultures », je pouvais contrôler ce que Cheikh Anta Diop disait pour le latin, le grec. Mais l'égyptien ancien, là, les hiéroglyphes, c'était vraiment un blocage, une barrière, je ne pouvais pas connaître. Donc j'ai dit, il faut connaître l'égyptien ancien. Et c'était venu pour moi une obsession. Bon, et Cheikh Anta Diop était un peu près la risée. Quand tu lisais les Surés Canal, on se moquait de lui. Quand tu lisais les Moni, on se moquait de lui. Les balandiers de l'Afrique ambiguë disaient que Cheikh Anta Diop, dans un livre aussi touffu que la forêt équatoriale, prétend que les Égyptiens étaient des Noirs et il y a des étudiants africains qui lisent ça comme la Bible. Et moi, je me disais peut-être qu'il a raison.
À tout juste 30 ans, Théophile Obenga quitte Bordeaux pour Paris, puis ce sera notamment Genève en Suisse, où il poursuit son apprentissage de l'égyptologie, mais aussi de l'histoire, de la linguistique ou encore de la paléontologie. À l'occasion d'un colloque sur les origines de l'homme, organisé par l'UNESCO en 1969 à Paris, il rencontre enfin son mentor, Cheikh Anta Diop. Avec l'aide de ce dernier, il publie 4 ans plus tard « L'Afrique dans l'Antiquité », un ouvrage qui témoigne de l'origine africaine de la civilisation égyptienne.
Un esclave peut avoir même l'idée de penser qu'il n'est pas homme parce qu'il a assujetti. Or, Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga nous ont donné la fierté d'être homme.
De retour à Brazzaville au début des années 70, Théophile Obenga dirige l'école normale supérieure et contribue au développement de la toute jeune université Marien Gwabi. Parallèlement, il poursuit ses recherches et démontre notamment l'origine commune de l'Égyptien ancien, du copte et des langues négro-africaines modernes.
Quand il était ministre des Affaires étrangères, le professeur Obenga, du point de vue diplomatique, a fait rayonner l'image du Congo à l'extérieur. Et j'en suis reconnaissant parce que il n'y a rien de plus fort que le pays, le Congo, l'Afrique pour nous.
En dépit des grandes responsabilités politiques et institutionnelles qu'il a exercées, Théophile Obenga est d'abord passionné par la recherche, surtout lorsqu'elle permet aux peuples noirs de connaître leur histoire pour mieux maîtriser le présent et se projeter ainsi dans le futur. Et à cet égard, son œuvre constitue un héritage précieux. Apôtre forcené de la Renaissance africaine, Théophile Obenga est convaincu que le futur du continent est panafricain et il appelle les élites africaines à prendre en charge leur jeunesse.
Théophile Obenga, le professeur Théophile Obenga est notre invité aujourd'hui. Quel est le regard que vous portez sur la trajectoire de cet enfant bantou du peuple Congo que vous êtes et qui est aujourd'hui respecté dans le monde entier et qui a porté une pierre à l'édifice de la reconnaissance de l'histoire africaine?
C'est que il faut avoir beaucoup de détermination, beaucoup de courage et faire pour rendre service. On ne fait pas tellement pour soi, mais on fait pour une cause, c'est la cause africaine.
Pour la cause africaine, alors vous pouvez bien sûr réagir à cette émission sur nos réseaux sociaux, mais également aller la revoir, discuter entre vous et notamment aller faire un tour sur notre site tv5monde.com.
Alors, ce que je voulais savoir, on a vu ce reportage, on a vu une photo de votre épouse qui est décédée. Quel est le rôle qu'elle a joué auprès de vous durant toutes ces décennies?
C'est-à-dire la disponibilité, quoi. C'est une dame qui m'aimait beaucoup, bien sûr, mais qui respectait le travail, quoi. Tant que pour aller, par exemple, au restaurant, il fallait faire des votes. Elle ne voulait même pas aller. Donc, les enfants, tout le monde, il faut voter. Qui va aller? Elle était minoritaire, c'est là qu'on partait. Le cinéma, presque jamais, etc. Donc, elle me donnait tout le temps, etc. Mais comme j'achetais beaucoup de livres, je lui confiais la gestion, quoi, du ménage entièrement. Donc, je ne savais même pas mon salaire, c'est elle qui gérait tout, tout, tout. Parce que dès que j'avais les sous, je pensais plus à mes livres qu'à la famille, quoi. Donc, elle disait que j'étais un mauvais gestionnaire. Donc, j'ai dit, bon, d'accord, il faut gérer, quoi. J'étais incapable de bien gérer parce que j'étais tout le temps dans l'achat des livres.
Votre fils Damboa, on l'a vu dans le reportage, dit qu'il vous a toujours vu enfant en train de travailler. Toutes ces années de combat, de travail, est-ce que la vie vous a laissé la possibilité d'être le père que vous souhaitiez, Théophile Obenga?
Ah oui, on est père par l'exemple. Ça dit qu'ils ont aussi travaillé. Ils sont biologistes, ingénieurs agronomes, informaticiens. La fille est née médecin, etc. Donc, ils ont vu quand même qu'on travaillait aussi et qu'on travaillait pour soi. Puis, on les poussait aussi à travailler, les livres, les conditions de travail, etc., pour qu'ils réussissent aussi à leur tour. Donc, le travail n'était pas seulement de façon égoïste, mais c'était aussi pour l'épanouissement des autres.
Alors, vous avez vécu adolescent à Brazzaville, ville à l'époque qui était la capitale de la France libre. Quels souvenirs vous gardez-vous de cette époque?
Oui, la ville était très divisée. C'est ce qu'on appelait la ville, c'est-à-dire là où habitaient les Européens, les Français. Et puis la cité, c'est-à-dire où habitaient les Africains. Donc à Brazzaville, il y a deux cités. La cité Bakongo, et puis la cité...
Au sud de Brazzaville.
Au sud de Brazzaville, puis la cité Potopoto, au nord de Brazzaville. Au milieu, entre les deux cités noires, il y a la ville administrative, la ville... les européennes, quoi, qui avaient le goudron, l'eau courante, l'électricité, et qui avaient le bien-être matériel. Tandis que les cités, comme on dit, c'était un peu dans l'obscurité.
Alors, dites-nous, Théophile Obenga, votre parcours, on l'a vu un petit peu dans le reportage, est un parcours exceptionnel, celui d'un enfant précoce, un enfant surdoué. Toutes ces années, vous avez toujours eu envie d'apprendre, de connaître, curieux de tout. Est-ce que finalement, c'est pas une quête perpétuelle de connaissances, votre parcours ?
Oui, je ne sais pas si c'est doué ou quoi. Ça dit que je faisais les choses assez facilement, quoi. Donc, s'il y avait une composition demain, bon, je lisais aujourd'hui ce qu'il fallait lire, et puis demain, je faisais, je passais. Donc, puis je partais à l'école, pas tellement pour apprendre. À l'école primaire, je ne voyais pas la signification de l'école. Je partais parce que tout le monde va à l'école, tous mes amis, tous mes camarades. Donc, on partait pour jouer, puis écouter ce que le maître disait, et essayer de comprendre. Bon, je ne faisais pas une... Je ne savais même pas quoi mener l'école. J'aurais su ça, que j'aurais été plus attentif. Mais comme je ne savais pas quoi ça menait, c'était pour moi un jeu, quoi.
Vous jouez au foot avec vos camarades, vous avez fondé une équipe de foot.
Oui, j'étais le capitaine d'une équipe de football, j'étais avant-centre. Et pour moi, il fallait marquer, quoi. J'étais accroché. S'il y avait match nul, on nous battait, j'étais fou furieux.
Alors c'est étonnant, parce que voilà quelqu'un qui dit qu'il a fait des études, mais vraiment sans vouloir absolument avoir des diplômes, les posséder, alors que vous êtes docteur dans plusieurs disciplines, vous maîtrisez à la perfection le grec, le latin, les langues copte, égyptienne ancienne, vous avez rivalisé avec les plus grands égyptologues de la planète. Je voulais, sans vous demander si vous avez des regrets, vous poser la question suivante. Si vous deviez, ou si vous aviez la possibilité de changer quelque chose dans votre trajectoire, est-ce que vous changeriez quelque chose ?
Non, j'aurais rien changé, j'aurais été un peu plus attentif, quoi. Parce que j'ai commencé à être attentif un peu plus tard, vers la trentaine, pour m'étudier, pour me former, chercher l'érudition. Mais j'aurais fait ça un peu plus tôt, quoi. Et puis, parce que j'étais aussi bien au lycée en mathématiques qu'en lettres.
Sachez que le professeur Théophile Obenga a été un fidèle compagnon de route de Charanta Diop. Je vous invite maintenant à découvrir un extrait du film Kemptiou, du cinéaste sénégalais Ousmane William Baye, dans lequel il consacre évidemment l'entièreté de ce récit à l'épopée incroyable d'un enfant du Sénégal, un film qui a obtenu le prix du meilleur film documentaire lors du dernier FESPACO.
Il est certain que les savants d'il y a 150 ans, les contemporains de la naissance de l'égyptologie moderne savaient parfaitement que l'Égypte était une civilisation nègre et négro-africaine. Ils ne manquaient pas de science, absolument pas. Mais ils ont falsifié sciemment l'histoire. Il était, à cette époque-là, qui correspondait à l'apogée de l'impérialisme, devenu impossible de dire que c'est cette Afrique, mère de la civilisation, que l'on va coloniser.
Cheikh Kamta Diop a fait quelque chose qui est important historiquement. Il a contribué à redonner à l'Afrique son passé. Et en redonnant à l'Afrique son passé, il a redonné peut-être son passé à l'humanité. Et ses premiers travaux, c'était une de ses obsessions, ses premiers travaux ont porté sur l'Égypte. Et alors, Cheikh Kamta Diop s'est piqué au jeu. Il est devenu, à son tour, un égyptologue. Et un égyptologue extrêmement érudit, extrêmement précis. Et il a démontré, scientifiquement, ce dont il avait eu l'intuition.
Cet homme-là du terroir, qui a consacré l'essentiel de sa vie à vouloir à ce que son peuple soit un peuple digne et fort, et qui malheureusement finit dans un laboratoire comme ça. Comme ça. Comment il est mort, cher? Charanta Diop, si tu veux mon avis, c'est toute l'Afrique qui a perdu encore, qui a raté le coche.
Cheikh Diop, c'est toute l'Afrique, les mots d'un inclassable de la culture africaine qui vient de disparaître. Joe Akam, artiste plasticien sénégalais, un artiste de génie. Il figure dans ce film documentaire que nous vous conseillons vivement. Kentiou Doucemane William Mbaye. Nous accueillons à présent avec joie et ferveur une immense cinéaste. Elle est originaire du Niger. C'est Ramatou Keïta. Soyez la bienvenue.
Merci.
À nos côtés également, vous êtes panafricaniste et revendiqué comme tel, ce qui légitime votre présence, entre autres, sur ce plateau. À nos côtés également, le Burkinabé Yoporeka Sommet. Vous êtes égyptologue, mais également docteur en philosophie, entre autres formé à l'université de Strasbourg. Nous abordons avec vous le cœur de la pensée de Cheikh Diop, toujours en présence du professeur Théophile Obenga. Et on débute avec la thèse fondamentale, lise l'or, de la filiation d'une Égypte antique avec les civilisations négro-africaines sur des bases scientifiques établies autour de l'archéologie et notamment linguistique.
Alors Théophile Obenga, en quoi est-ce qu'il y a une parenté irréfutable entre l'Égyptien ancien et les langues négro-africaines modernes?
Merci beaucoup. Plusieurs témoignages peuvent être évoqués. Il y a des témoignages écrits par des témoins oculaires. Par exemple, Hérodote dit que les Égyptiens avaient la peau noire et les cheveux crépus. Et les mots qu'il emploie dans sa langue, qui est le grec, c'est des mots qu'on ne peut pas traduire par brun. C'est vraiment mélasse et noir charbon. C'est un témoin oculaire. Il était en Égypte, au Caire, en Haute-Égypte, à Thèbes, etc. Bon, il y a des témoignages aussi laissés par les Égyptiens eux-mêmes. Quand leur pays n'était pas Égypte, Égypte c'est du grec en fait, ça vient du grec. Ils appellent leur pays de plusieurs noms, le pays par exemple, comme nous disons le terroir. Ils appellent aussi Kemet, et, c'est-à-dire le pays noir. Comme nous, quand nous disons l'Afrique noire, pas parce que le sol est noir, parce que les gens qui habitent là-bas majoritairement et de façon naturelle sont des noirs. Et puis ils s'appelaient Kemtiou, c'est-à-dire ceux qui sont noirs. Kemtiou, rigoureusement, doit traduire les nègres, les noirs, Kemtiou. Alors quand vous avez la peau noire, les cheveux crépus, vous habitez naturellement l'Afrique, vous êtes des négro-africains, vous êtes africains noirs. Il y a d'autres témoignages, l'archéologie indique aussi qu'il y a des liens entre le Sahara, la vallée du Nil, etc. Il y a aussi des témoignages, disons, culturels, anthropologiques.
C'est un débat qui se répète, hein, qui nous renvoie Absolument. Au milieu des années 70. Une année mythique où il y a eu un combat Ali Forman, mais c'est tenu aussi un grand événement à l'UNESCO.
Ali Boumaye. Absolument, en 74, il y a un grand colloque au Caire qui réunit les plus grands égyptologues. Vous avez participé à ce colloque, Théophile Obenga. Et aujourd'hui encore, les thèses dont vous parliez et sur lesquelles avait travaillé Cheikh Anta Diop continuent d'être contestées violemment. Les conclusions de ce colloque sont contenues dans ce livre que la librairie Tamerie nous a très gentiment prêté. Et je voulais vous lire juste quelques lignes des conclusions. On dit ceci: la très minutieuse préparation des communications des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les conclusions. Pourquoi est-ce que ce débat continue aujourd'hui, Théophile Obenga?
Oui, ce débat continue, c'est très difficile parce que il faut connaître de quoi l'on parle. Moi, j'ai fait la preuve entre l'Égyptien ancien et le sémitique, tel que le Phénicien ou l'Acadien ou le Babylonien. Mais ça donne rien. Or, ils sont à peu près contemporains. Donc, si nous sortons d'un ancêtre commun au même moment et nous sommes contemporains, donc il y a des chances qu'on garde les mêmes racines.
Donc, il n'y a plus de débat.
En fait, ça ne montre rien. Par contre, Cheikh Anta Diop a montré que le Wolof et l'Égyptien étaient parentés. Je peux le faire, je le fais avec le Dagara, une langue du Burkina Faso. Je l'ai fait avec le Dogon. Je l'ai fait avec le Yoruba. Je l'ai fait avec les langues du Barel Ghazal. Je peux le faire avec le Haoussa.
Et vous êtes contesté par des...
Non, mais on conteste, c'est des faits.
Par Fauvel, par quelques autres qui...
C'est-à-dire que je n'invente pas l'Égyptien ancien. Je ne fabrique pas moi un Égyptien ancien à moi pour faire ma thèse. Je ne fabrique pas le Haoussa ou le Yoruba ou le Baoulé. Je suis pas même pas ivoirien. Mais je prends les faits linguistiques tels qu'ils sont. Je compare selon des méthodes universelles. Et on soumet ça à la communauté scientifique.
Alors vous parlez d'universalité, je vais me retourner vers vous, professeur Sommeil Yoporeka, pour vous demander si finalement le contexte de l'égyptologie de cette époque et celle d'aujourd'hui n'est pas trempé dans, on va dire, une espèce de bain qui mue vers l'idéologie.
Oui, voilà. Donc, en fait, le débat a changé un peu. Vous avez cité un nom, Fauvel. Fauvel, c'est quelqu'un qui ne conteste pas des faits précis. D'abord, il n'est pas égyptologue, il ne connaît pas l'égyptien ancien et il ne connaît pas les langues africaines. Donc comment peut-il contester un travail qui fait la comparaison entre ces deux aspects? Donc ça c'est un point. Ensuite, sur la contestation de l'africanité des Égyptiens ou de la négrité des anciens Égyptiens, je veux dire, ça ne se dit plus comme ça. C'est pas dit ouvertement que les Égyptiens ne sont pas des Noirs. On fait tout pour faire entendre cela aux gens, c'est-à-dire à nous autres ou aux personnes qui écoutent. Ce sont des insinuations, mais ce n'est pas affirmé. La seule chose qui est affirmée, c'est l'Égypte était appelée par ses habitants la Noire. Et on nous explique que c'est le sol qui est noir. Mais tout quiconque connaît la langue égyptienne, c'est que c'est faux. Hein? Je veux dire, ils mettent des signes qu'on ne lit pas et qu'on appelle des déterminatifs qui disent l'idée qui est représentée par ça. Donc quand il s'agit du pays, c'est un espace urbanisé qui est dessiné, donc un carrefour, donc c'est le pays. Comme on dit de l'Afrique, elle est noire, l'Afrique noire. Donc ce sont les hommes qui habitent là qui sont noirs. Ils utilisent le même terme, comme a dit le professeur Obanga, pour se désigner eux-mêmes. Donc ce soit Kemptiou, soit encore le mot Kemet, le même qui désigne le pays. Et à ce moment-là, ils dessinent un homme, une femme, et ils mettent trois traits à côté ou en dessous. Ça veut dire qu'ils expriment l'idée du peuple et de la pluralité, c'est-à-dire les gens qui habitent là sont noirs et ce sont eux-là qui sont désignés. Voilà.
Alors, d'accord, donc c'est un point qui a été abordé, mais je voudrais également entendre Ramatou sur le panafricanisme. Vous avez fait de la philosophie, vous êtes en même temps linguiste, vous êtes une panafricaniste affirmée, et je voulais savoir en quoi justement les visions ou la vision panafricaniste de Cheikh Anta Diop vous a influencé.
En quoi je crois qu'aujourd'hui nous tous sommes influencés par les recherches de Cheikh Anta Diop. Et quand le très regretté Joe Wakam, parce qu'il va manquer à Dakar, hein, Joe Wakam, dit encore une fois l'Afrique a raté le coche, je pense qu'il est un peu dur avec nous, mais en même temps, qui aime bien châtie bien. Peut-être il veut dire on va pas assez loin. On est quand même des peuples bouleversés depuis des siècles, perdus, abandonnés à nous-mêmes, à qui on a transmis le mépris de lui-même. On est un peuple à qui on est venu. Il y a des gens à qui on est venu, le plus beau peuple du monde, on est venu lui dire un jour qu'il est laid, et il l'a cru. Il l'a cru en tout. Donc il faut reconstruire tout ça. Et par les recherches de Cheikh Anta, il suffit, je veux dire, il n'y a même plus de débat, parce qu'il suffit seulement de regarder les pharaons, les traits des pharaons. Il suffit de regarder les momies. Je reviens encore de Luxor, où j'ai été voir le palais de Hatshepsut, mais il suffit de voir sa tête, je veux dire. Voilà. Donc, évidemment que ça influence beaucoup, et puis que ça nous lie, avec la diaspora aussi, et que ça aussi fait qu'ils ont pu faire des liens avec leur histoire.
Enfin, bien voilà. Sûr. Alors on va y revenir. Hein. Également, vous retrouvez professeur Yoporeka dans quelques instants, mais parler justement de la diffusion de ces idées qui sont entre autres portées par les artistes qui ventilent à travers les afrodescendants, à travers leurs œuvres, eh bien, une vision révolutionnaire à l'époque. Je propose de découvrir notamment à travers un clip vidéo, eh bien, les schèmes de cette pensée.
Attends que l'Occident vienne lui raconter son histoire. Je rêve d'un quotidien rempli de sagesse et de savoir. Sur ce trône de la puissance sera assis un homme noir. Je suis vêtu d'un corps de science initié dans ce laboratoire. Car du carbone 14, j'ai trouvé la formule du crack. J'amorce cette puissance qui me donne l'énergie divine qui est ma force. Regarde maintenant, je marche sur les flots sans aucune entorse. Tu verras mes deux têtes de noir gravées sur le drapeau de la Corse. Je n'ai pas encore atteint le degré de
d'un initié pharaonique.
Pour l'instant, je suis occupé par les États fédéraux d'Afrique.
Mon emploi du temps est chargé car j'écris beaucoup de chroniques.
Pour que demain nous puissions nous doter de la bombe atomique.
En dehors de la fierté noire et de tous ses aspects anatomiques, je m'inspire de celui qui a décrypté les écritures canoniques. Et par ma plume habile, je dois créer un champ électromagnétique. Laissez-moi vous percer les merveilles de notre histoire glorifique. Celles qui ont pénétré les formules et les symboles mathématiques. Celles qui ont propulsé la poésie jusqu'aux vibrations cosmiques. C'est moi, Nigamas, mon vrai prénom, Massamba, le même que tu retrouves au Congo Brazza. Dès que je porte le brassard, mon ligne au départ. Ce n'est donc pas un hasard que nous nous retrouvons sur le même boulevard. Appelle-moi le dompteur de léopard, le décorateur des arts, même le Kemi Superstar.
C'est le clip L'Enfant du Nil. Lui s'appelle Negamas, originaire du Sénégal, un enfant de la Teranga qui fait partie intégrante de cette génération chef de file qui diffuse à travers leurs œuvres et la pensée puissante de Cheikh Anta Diop. Merci d'être avec nous, Negamas.
Merci de m'avoir invité sur le plateau riche.
Soyez le bienvenu. Alors vous pouvez bien sûr revoir cette émission à satiété sur notre site internet tv5monde.com et réagir abondamment sur les réseaux sociaux. Théophile Obenga, cette jeunesse ne vous laisse pas indifférent, hein, puisque vous avez lancé un appel pour un contrat social africain. Ces artistes sont dépositaires de ce message de l'unité culturelle africaine que vous avez professé aux côtés du professeur Cheikh Anta Diop. On va essayer, mes camarades et moi, de donner quelques exemples parce que parfois, on a l'impression que c'est trop compliqué à comprendre. En fait, ce que vous dites, c'est que partout en Afrique, depuis des millénaires, eh bien, on parle les mêmes langues en général, on cultive les mêmes coutumes, les mêmes rites. Et par exemple, vous dites que les Dogons du Mali, par exemple, les Fangbeti du Cameroun et du Gabon, descendent directement d'une lignée des Égyptiens anciens.
Oui, il y a beaucoup de filiations entre n'importe quel peuple ou tribu ou ethnie comme vous voulez, n'importe quel peuple africain noir aujourd'hui a des liens culturels, linguistiques, etc. avec la vallée du Nil, avec le Soudan ancien, Kouch, Napata, Meroé, et avec la vallée du Nil pharaonique.
On et a pas des avec liens. Les peuples sémites.
Les peuples sémites sont rentrés dans la vallée du Nil, chassés par la famine et le désert, et ils sont rentrés enchaînés. On voit bien les figurines que le Cheikh Anta Diop l'a bien montré. Ils sont rentrés pas en tant qu'hommes libres, ils ne sont pas responsables de la civilisation. Leur berceau culturel, c'est le sud de l'Irak aujourd'hui, en Mésopotamie. Et ça, c'est leur berceau. Ils ont fait la civilisation babylonienne, acadienne, etc. Ils ont écrit sur de l'argile, hein, et non sur la pierre. Et puis cette écriture cunéiforme n'a donné aucun descendant dans le temps. Donc c'est une civilisation qui a eu sa gloire, qui a eu son importance dans l'évolution de l'humanité, mais elle est due au peuple sémite. On ne revendique pas ça.
Et justement, en parlant toujours de ces populations négro-africaines, vous, je parle sous votre contrôle, hein, vous dites par exemple que dans l'Égyptien ancien, on dit « ya » pour dire « viens ». Dans ma langue, le Bakaka au Cameroun, on dit « ya ». Et dans le Douala aussi, on dit «
dans ma langue aussi. Dans ma langue aussi, le Mboshi, on dit « ya ».
Et d'ailleurs, dans le Mboshi, le « ku », c'est un peu comme dans ma langue, on dit « king » et dans le Mboshi…
On dit « kingi ».
C'est la même chose.
Ou le pied éco, vous êtes...
Oui, en Bakaka, on dit éco.
Oui, on dit éco, etc. Et c'est la même chose, c'est la même langue. Enfin, ça, c'est la langue bantoue, la parenté est encore évidente. Mais nous sommes aussi parentés avec les langues du Niger, du fleuve Niger. Par exemple, avec les Akans, les Yoruba, etc. Quand ils disent surtout la mort, on ne peut pas emprunter un mot par pauvreté comme le mot mort. Il est naturel dans une langue. On disait Iku, Leku, Ku, partout dans toute l'Afrique.
Alors Negamas, les œuvres de Cheikh Anta Diop aujourd'hui, de la vie de tous, ne sont pas assez enseignées. Mm-hmm. Vous, dans quelles circonstances vous avez découvert Cheikh Anta Diop?
En fait, moi je suis issu d'une famille où mon grand-père était déjà un ami proche de Cheikh Anta. Et donc, bon, moi j'étais très jeune, hein, à l'époque, bon, j'étais pas tout à fait à Dakar. Mais à l'époque, lorsque j'étais entouré de cette famille, on parlait beaucoup de la pensée, hein, de Cheikh Anta Diop. Et donc ça se discutait entre les oncles, entre les tantes, intellectuels surtout, parce que dans ma famille, il y a beaucoup de gens qui ont un niveau supérieur assez élevé. Et donc ça se discutait autour de ses œuvres, autour de sa pensée. Et à chaque fois, j'entendais des petites briques par-ci, par-là. Mais les œuvres de Cheikh Anta Diop, on ne les étudie pas à l'école. donc jusqu'à présent, je ne pense pas qu'il soit enseigné au Sénégal. Et donc c'est au fur et à mesure que j'avais les influences un peu révolutionnaires pour l'Afrique, redonner une image positive de l'Afrique, que je me suis mis à travailler sur ces œuvres. Et donc, en lisant ces œuvres, que j'ai compris que justement qu'on avait une mission à accomplir.
Et c'est ainsi qu'on voit dans vos œuvres que vous êtes vraiment fer de lance de cette génération qui revendique cette filiation avec ses positions.
Tout à fait.
Alors,
tout à fait.
Professeur, comment rendre accessible cette œuvre de Cheikh Anta Diop ? Il disait à l'instant qu'elle n'est pas enseignée au Sénégal, mais pas seulement dans la plupart des pays africains. Comment la rendre accessible, cette œuvre, qui est riche et parfois complexe ?
Il faut la diffuser, la faire connaître, parce que moi j'étais étudiant, j'ai grandi au Burkina, à Ouaga, donc juste à côté, et je n'avais jamais entendu parler de Cheikh Anta Diop, ni de ce qu'il avait fait. Et je l'ai découvert grâce à Théophile Obenga ici, présent, en 1986, lors d'un colloque que le président Sankara avait convoqué pour organiser ce qu'il appelait l'Institut des Peuples Noirs. C'est la première fois qu'on avait entendu dire qu'il y avait une philosophie en Afrique, que les Africains philosophaient, parce qu'un texte de l'Égypte ancienne avait été lu par Obenga et nous avions réagi en disant oui, c'est de la philosophie, ça ressemble à du Aristote, ça ressemble à du Heidegger. Maintenant, comment faire pour que les générations qui montent gagnent du temps par rapport à notre errance à nous? Il faut mettre les œuvres de Cheikh Anta Diop dans les programmes, mais on ne peut pas le faire de la même façon dans les petites classes, par exemple dans les classes du primaire ou au collège, qu'on le fait à l'université.
C'est le cas dans le bloc anglo-saxon où c'est l'occasion peut-être de rendre hommage à des personnalités telles que Molefi Asante qui ont inventé les African Studies, ou dans les universités on étudie cette égyptologie.
Ce qu'on fait dans les universités, c'est très bien, et je trouve que ce n'est pas assez encore dans les universités africaines. Mais il faudrait commencer au bas âge, c'est-à-dire dans les écoles élémentaires.
Mais alors justement, dans les collèges. Vous me tendez une bonne perche, parce que là j'ai deux livres de Kam Kama, qui est un petit éditeur qui vit à Paris.
Mais je peux vous aider quand
même. Voilà, alors ça c'est pour les... Merci, ça c'est pour les tout-petits. Alors ça s'appelle Cheikh Anta Diop, et là c'est Cheikh Anta le Pharaon. Et donc c'est très instructif pour les petits, et il dit que, selon lui, il dit c'est très bizarre, parce que tous ceux qui écrivent des livres sur Cheikh Anta Diop, il dit ils ne vendent pas assez de livres. Negama disait tout à l'heure qu'il a été influencé par son cercle familial. Est-ce que justement il ne faut pas commencer par là? Les tout petits.
Il faut commencer par là, par les tout petits, en faisant des livres pour enfants, des bandes dessinées, mais il faut aussi que ça entre dans les programmes d'enseignement. C'est-à-dire, c'est que les élèves à l'école élémentaire apprennent quelque chose de l'histoire de l'Afrique et automatiquement, ils découvriront les œuvres de Cheikh Anta Diop. Qu'en sixième, par exemple, en France, ici, la première leçon en histoire, en sixième, c'est l'Égypte ancienne. Ce n'est pas le cas dans la plupart de nos pays d'Afrique.
Alors, donc, on l'a dit tout à l'heure, cette thèse a reçu beaucoup de résistance, professeur Obenga. Aujourd'hui, de dire que l'Égypte antique a une filiation directe avec les peuples négro-africains, c'est encore contesté. On conteste aussi la rigueur scientifique avec laquelle les démonstrations ont été faites par le professeur Cheikh Anta Diop.
En science, il y a quand même des méthodes. Ceux qui contestent doivent exposer leurs méthodes. Je conteste, voici la méthode. Ils doivent aussi trouver des points précis de contestation. Ce n'est pas la généralité. Il y a un point précis qu'on conteste, qu'on réfute avec d'autres arguments. Parce que ça fait avancer aussi. On ne refuse pas la contradiction. Elle fait avancer le débat, mais pourvu qu'elle soit constructive. Or, jusqu'ici, on fait plutôt de l'idéologie. C'est-à-dire que nous sommes les meilleurs. On vous a colonisé et vous n'avez rien à dire parce que vous êtes encore illettré, primitif, sauvage et pas civilisé, en voie de développement, des gens qu'on aide encore dans les sous-aides, etc. Vous attendez des partenaires pour vous développer. Donc vous n'avez aucun droit, vous n'avez aucun droit humain même de connaître votre histoire. C'est ça. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas un seul savant en son âme et conscience et en toute objectivité scientifique qui peut apporter des arguments disant que les Égyptiens anciens étaient un peuple, disons, indo-européen ou européen, que la langue égyptienne est une langue indo-européenne ou sémitique, que leur civilisation, dans son essence même, est une civilisation non-négro-africaine. Personne ne peut le dire. On refuse simplement, parce que nous sommes faibles. Le jour où l'Afrique sera forte, économiquement, intellectuellement, militairement, et assurer sa propre sécurité, ce débat va s'éliminer de lui-même.
Alors, Niga, vous nous avez dit avec beaucoup d'enthousiasme tout à l'heure combien cet héritage de Cheikh Anta Diop est important. Vous serez au New Morning le 1er juillet prochain en concert. Oui. Est-ce que vous rencontrez, vous, des problèmes de censure par rapport à tout ce que vous faites, notamment au Sénégal, aujourd'hui?
Ça arrive, c'est quotidien. Mais on essaie d'avoir une autre méthode pour essayer de contourner justement ces blocages-là, parce qu'à un moment donné, il y a malheureusement, ça existe aussi en Afrique qu'ici, en Europe, qu'à un certain moment, lorsqu'on commence à toucher des points sensibles, on est tout de suite mis de côté, parce que tout simplement, le message peut justement influencer à la jeunesse à avoir une conscience. Et il y a des lobbies qui sont ici et d'ailleurs, qui empêche justement à l'éveil des consciences, d'où justement la professeure Cheikh Anta Diop qui a été empêchée d'enseigner au Sénégal. Et c'est la même continuité qu'on retrouve dans le milieu artistique, et que malheureusement, on préfère promouvoir certains qui appellent au dérangement des femmes, à la débauche, à la dénaturalisation de nos propres valeurs, que de mettre en avant justement ceux qui mettent de la science dans la musique.
Je pense que ça ne laisse pas insensible l'intellectuel qui est face à nous, qui viendra d'ailleurs à votre concert. Ah, je viens de voir Cluney. Le mot de la fin pour vous sur ce qu'il faudrait faire pour que ces idées, cette vision soient diffusées au maximum et touchent, impactent les afrodescendants et la jeunesse en particulier.
Comme je l'ai dit, nous sommes tous sollicités pour ça. Et j'ai parlé de la nécessité de changer les programmes scolaires, de réformer les programmes scolaires afin d'injecter la pensée de Cheikh Anta Diop et de revenir sur l'histoire africaine. C'est ça qu'on appelle la restauration de la conscience historique. Nous savons que ce qui nous arrive s'est produit dans un contexte géopolitique où l'Afrique a perdu la main pendant 5 voire 6 siècles. Et donc, il n'était plus possible, en arrivant au 19e siècle, de rattacher la civilisation de l'Égypte ancienne à un peuple vaincu comme le peuple africain. Donc, toutes ces contestations et tout ce dont nous sommes en train de parler s'explique par ce contexte-là.
– Il faut aller le trouver dans les livres.
– Il faut aller le trouver dans les livres. Et il faut justement, grâce à la connaissance et grâce au savoir, grâce à la maîtrise de la science, renverser cette situation, et ça ne peut se faire que par ce biais-là. Et c'est la leçon de Cheikh Anta Diop.
– Armez-vous de science
jusqu'aux dents.
– Jusqu'aux dents.
Ceux qui contestent, moi, je ne réponds plus, parce que lorsque je me suis rendu 2 fois en Égypte, donc j'étais à la source, les gens, ils sont d'accord. Comme quoi que les anciens, ceux qui ont fait cette civilisation, étaient noirs. Donc dès lors où à la source, les gens sont d'accord, il n'y a plus de discussion.
Niga Mass, à découvrir sur scène au New Morning. Rendez-vous le 1er juillet prochain. Merci à vous, professeur. Bon retour au Bercail.
04-91-08-28-10, nous revenons à l'antenne. 04-91-08-28-10, je vous rappelle quand même, le New Morning n'est pas encore opérationnel. J'ai fait un test, il est donc probable, toutefois, ceux qui veulent intervenir sur d'autres sujets de débat, sur donc mon WhatsApp personnalisé, 06-44-94-56-31. Merci Kissine, qui nous avait touché dimanche dernier. Nous n'avons rien à cacher avec tout le monde. Sur ce débat, sur cette philosophie que vous venez d'entendre, les intervenants, des intellectuels, des juristes, des professeurs, et puis avérés, des artistes aussi, reconnus, initiés. Et il y a le professeur Laman Mbeye, qui nous rappelle juste sur ce débat et constructive, et donc avant tout vous satisfaire. 06 44 94 56 31 WhatsApp.
À Ndjongé, que se trouve, n'est-ce pas tout simplement, mais la tombe de Kochi Barma. Quand on dit la langue de Molière, c'est le français, mais la langue wolof, on parle de Kochi. Et il y a une énorme littérature sur Kochi Barma. Pourquoi ne pas aller auprès de Ndongo Fall, que je connais personnellement? Pourquoi ne pas recueillir tous les récits de Koch, mais les mettre dans des réseaux sociaux et les partager? On ne connaît de Koch que les 4 touffes de chevaux. Les 4 touffes de chevaux. Djigen Sopol Tchebulwolu, Bourdou Mbok, Domou Djitlé de Dom, Magmadna Bachim Réou. Or, il y a Kumba Koch qui est la fille de Koch Barma. Et ça m'intéresse, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait sa thèse sur une étude comparative entre Koch Barma et Socrate. Vous savez que les élèves de terminale, vous le savez mieux que moi, Kochi Barma faisait comme Socrate. Socrate n'a jamais écrit. Et pourtant, c'est le père de la philosophie occidentale. Socrate n'a laissé aucune ligne. C'est Platon, son disciple, qui a écrit. Socrate faisait de la maïtique. Dans le Ménon, quand Socrate dit au Ménon, qu'est-ce que c'est que la vertu? Le Ménon lui dit, c'est l'art qui est donné à l'homme de commander. Socrate ne lui dit pas, c'est faux. Il lui dit, pourtant, l'enfant et l'esclave ne commandent pas et ils peuvent être vertueux. Le Ménon sait que la réponse qu'il a donnée est fausse. Il cherche une autre réponse. Cette tentative de chercher une autre réponse à la question posée, c'est ça la philosophie. Kochi Barma, quand on a dit, Dom Mbot Ndok Dukorei, il n'a pas dit c'est faux. Il a dit, Khanan Ndok Matangoul. Quand les gens ont dit, Dor Fayou, Mouni Bodanoul. Mouni Lourek Bajantou, Mouni Bamdesub Khal. Celui qui dîne, qui reste dans sa case, s'il entend des bruits au dehors, c'est lui qui va sortir à la rescousse de celui qui a des problèmes. Et si la case s'enflamme, c'est une philosophie. Kumba Koch, quand Koch dit, pour la première fois, quand il rencontre son épouse, avant même, en fait, il n'avait pas encore épousé, mais il l'a rencontré. Il lui dit, « Somodjigen, no tud. » La dame lui répond, « Li gën ci souf, ci yes ci jigen. » Koch Barma lui dit, « Dior nam fay. » À Dakar, quand il pleut pendant 5 minutes, les gens ont des problèmes. Il y a des inondations. Andande, à Kebemer, à Géoul, quand il pleut, « Boutawon, nienti waktu. » Nous souf si nanko parce que c'est un sol Dior. Mouno ke yo Dior nga tud. Fay nga sant parce que li yes ci jigen moy fo amé problème ak sa jëkër jël sa ñaari ñaari o ak ñaari pantalon def ci sa yob moy fay
pas professeur
monsieur le maire jor nam fay munako yow sama chami no tuddu munako turum fukki fan ak ñaar ci wër dekkum souf fukki fan ak ñaar lañuy gam munako yow ma gam nga tuddu dekkum souf munako am kan parce que am kan ci la jinax di dekk ci la gagné dekk munako ma gam nam kan munako yow mi la doon set wa numay def ba ñew seen kër munoko da ngay romb sowum kaw jaar keur jinne jaar fi deuk jeexé lo ci dole egg sunu keur sowum kaw moy buy keur jinne moy dakar gi fi deuk jeexé moy armeli c'est extraordinaire comme philosophie et ça quoi ci barma la fait c'est extraordinaire donc il s'agit de mettre des contenus dans le réseau internet et dans les réseaux sociaux pour que ça devienne une humanité. On peut l'utiliser. Internet mbedd lepp ci nek wolof yi dañuy wax ni dom ju amul nijaay mbedd lay déggé. Internet c'est un boulevard, il y a tout. C'est à nous de faire des tri, c'est à nous de voir à l'intérieur, n'est-ce pas, tout simplement du système, à l'intérieur du support, qu'est-ce que nous mettons. Même à la télévision il y a un code parental parce qu'il doit pas tout regarder l'enfant, c'est important. Sama domou frère mi ngi may laaj barki dembu le mot wolof louer nan lañ koy waxé ci wolof louer. J'ai demandé ça à mon père pendant une semaine, personne n'a répondu parce que wolof xamul louer. Wolof du louer tol dañ la nan abal tol nga deloko dañ lay taylé mais taylé sax taylé moy ma jox le mbir boma fayul ma jël ko mu wel dogal da ngay dogal nit ab tol dañ lay dogal ab tol may lako mais louer on te donne ça. Bu werdé nga fay wolof xamul fay xamuñu xaliss bobu motax la notion de droit d'auteur amul ci wolof da ngay gis kenn génné ben way kenen génné ko. C'est pourquoi on a parlé de l'usufruit et d'ailleurs Rousseau dans le contrat social le dit. Rousseau dit que tant qu'on vivait de la chasse, de la pêche, de la cueillette, tant qu'on portait des habits cousus par des épines et des tisanes, la vie était normale. Mais dès l'instant que quelqu'un a osé dire que ceci m'appartient, l'injustice s'est installée. L'homme est naturellement bon, c'est la société qui l'a corrompu. Absolument. Donc c'est à nous de mettre à l'intérieur du support nos propres valeurs. Et nous avons aujourd'hui une crise de valeurs. C'est ça le problème, le proviseur l'a dit tout à l'heure. Les défauts et les malversations de Internet. Kenn ñëmétu la génn, kenn ñëmétu la wax parce que internet da lay yaq et buñ la yaqé dañuy yaq sa famille. Quand vous mettez une photo dans internet, j'ai assisté à une conférence qui a été donnée par une Sénégalaise qui est aux États-Unis, qui est revenue au Sénégal et qui nous a fait une conférence sur les réseaux sociaux. Les applications yi nek ci portable les applications amna yo xamni applications gratuites lañ ko tuddé. Les applications gratuites sont dangereuses parce que yow yay cible bi. Quand vous mettez une photo dans internet, dotul dañ mukk ci adina. Lu jara def attention. Il faut absolument faire attention. C'est un couteau à double tranchant. Ça déshumanise. Da ngay ñew ci kër. Assalamu alaykum. Fek papa, yay, dom, ñepp connecté, kenn du wax ak yow. Ça a tué l'humanité. Kër yi dañ dan waxtaan. Da ngay gis ku nekk ci appareil. Bu jëk jabar ak jëkër bu ñu amé problème 10 minutes mu réglé wu. Légui da ngay am problème ak sa jëkër di dem jël sa appareil di connecté ku nekk fenen pendant 4 heures de temps. Ça a creusé les différences. L'éducation n'existe plus. Il y a une crise d'éducation aujourd'hui. Parce que l'éducation, il faut l'équipe, il faut les professeurs, il faut les parents. Durkheim dit que l'éducation, c'est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Mais on te laisse à toi-même. Bis bu ne mani waxna ko RFM beur ki demb ma len erreur bu mak da ngay gis ko nan man sama keur 9h la ko tej ken du genn or boko teje sa dom jël na portable am dug ci mbaji mi il parle avec le monde tejo dara au contraire tu as ouvert des portes c'est ça le drame. Il y a des gens qui passent tout leur temps à faire des snap c'est là de ne djep snap au contraire. Cheikh Ibrahim Fall mi xamna limay wax bu jëk da nga daan am problème livre fokoy jëlé légui amna application yo xam livre bi dang koy am mais tay résultat yi dafa waron gëna bax résultat yi dafa waron gëna bax mais c'est le contraire tay livre bo soxla en un temps record nga am ko légui mais c'est le contraire parce qu'il y a problème parce qu'il y a une crise aiguë de l'éducation de la formation. On a ces problèmes-là. Et pourtant, on a une histoire extraordinaire. On a une histoire qui n'a rien à envier à l'étranger. La Dior a été barguette à 17 ans. Le président Wade m'a posé cette question un jour. Il m'a dit, professeur, je vais te poser une question. Je viens de recevoir une délégation de l'Union européenne ce matin. Et ils m'ont dit que la notion de parité est née en France avec Jeanne d'Arc. Est-ce qu'au Sénégal, il y a des filles à un âge jeune qui ont fait des prouesses. Maneko Ngone Latir, pas la mère de Lac Dior, mais l'homonyme de la mère de Lac Dior, Ngone Latir Latsukabi Ngone Dieye. Ngone Latir, son père Latsukabi Ngone Dieye était malade au point qu'il était alité. Il était au lit. Et l'empire a été attaqué par les Maures du Trarza. Le roi est là, il est malade, il ne peut rien faire. Les esclaves sont arrivés et lui ont dit que désormais, nous serons tous esclaves parce que le Trarza est à nos portes. C'est Ngone Latir, sa fille, qui a l'âge de 15 ans, mais qui a la même taille que son père, qui demande à tout le monde de sortir, qui ferme la porte à double tour et qui dit à son père, qui avait les larmes aux yeux, sèche tes larmes. Nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau au point qu'on nous confonde. Laisse-moi enfourcher ton cheval. Laisse-moi porter ton manteau, tes bonnets. Laisse-moi porter tes chaussures. La seule chose que je vais changer aujourd'hui, c'est la devise du cheval qui avait pour nom Maganer, qu'il est bon d'avoir un grand frère. À partir d'aujourd'hui, je nomme le coursier Ndeyel Nek, secret de chambre. Si les gens du Dor le savent, c'est que quelqu'un du dedans l'a raconté et je sais que ce ne sera pas toi. C'est elle qui a conduit la grande bataille de Ngangarang de 1695 qui a gagné la bataille. Elle avait un bonnet et les populations ont cru que le roi avait dirigé la bataille. Et quand on célébrait la victoire, elle a enlevé son bonnet, les rastas jaillissaient de droite à gauche, elle dit Gor Bakhna, Jigen Bakhna. C'est ça aujourd'hui l'histoire du Sénégal qu'on peut mettre, n'est-ce pas, dans des ouvrages.
Amadou Ampateba l'a dit. Mères, à nos épouses,
il y a un ouvrage d'Amadou Ampateba qui s'appelle La natte des autres. Amadou Ampateba dit que s'asseoir sur la natte des autres, c'est s'asseoir par terre. S'asseoir sur la natte des autres, c'est s'asseoir par terre. Et c'est extrêmement important. Nous devons valoriser ce que nous avons. Nous devons valoriser, positiver ce que nous avons. Notre culture, nos traditions, nos façons de vivre. Essayer d'utiliser Internet et qu'Internet ne nous utilise pas. C'est extrêmement important. Le président Senghor disait que...
En tout cas, c'est le but de ce sujet. Merci, professeur Laman Mbeye, qui fait un travail extraordinaire, que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, que je partage avec vous. Et je vous rappelle, je faille vous rappeler encore le numéro de téléphone, mais qui n'est ni opérationnel. Donc 06 44 94 56 31. Donc on va faire une pause avec ces recherches éducatives et je remercie donc Papa Gueye, voilà l'ex-olympien qui avait lancé et envoyé un message à mon fils Ouzin de pouvoir signer donc pas un contrat, il est encore jeune, ce n'est qu'un enfant, à Gémonos, un club je dirais non seulement qui évolue beaucoup à toutes les catégories, mais mention spéciale à Jérémy le coach qui voudrait que mon fils signe l'année prochaine donc avec eux. Ce n'est que un grand plaisir. J'ai rencontré aussi une délégation, le club de Château-Gombert où évolue un de mes fils d'ailleurs U13. Et qui voudrait aussi le même Ouzin. Et éventuellement, cette fois-ci, c'est Sylvain Diawara qui a appelé à son ami pour pouvoir nous dissuader, pour signer aussi donc, à Saint-Jean, à Château-Gombert. Et je le remercie. Donc, une pensée, bien sûr, hommage à son père qui est décédé. Donc, il est allé à Khabou. Khabou, c'est la ville de ma grand-mère. Et puis voilà, on a échangé en visio. Donc, remercions bien sûr le nouveau président de Château-Gombert avec toute la délégation de son bureau sportif et de tous les membres qui composent l'amour de ce club et pour nous offrir des maillots, des crampons, des t-shirts, etc. Donc, ils ont demandé à toutes les familles de collecter toutes ces affaires pour envoyer aux associations sportives à Dakar et à ma ville, donc au nord du Sénégal. Donc, ça, franchement, c'est à saluer. Je suis très sensible à cela, donc éventuellement c'est dommage que nous faisons pas beaucoup de choses à la fois afin d'aller popper pour rendre hommage bien sûr à l'ARSEM, l'association des ressortissants sénégalais de Marseille, qui faisait beaucoup d'activités pour rendre hommage et inviter même nos cinéastes Ousmane Sambel, Djibril Mambéty, etc., etc. Mais il viendra en souhaitant bien sûr une relève, mais soyons d'accord pour être vraiment d'accord. Et pour le moment, il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de soucis. Binte, Saada, Thiam, notre coqueluche, notre étoile sénégalaise. Et moi, je les nommais toujours la Oum Kalsoum Junior. Longue vie à toi. Et qui vous souhaite un Ramadan Mubarak, un mois saint, un corps saint. Et avant tout, vous. Le pardon est divin, l'erreur est humaine. Binte Lalice. Alors, je vais vous rappeler toujours. Voilà, Binte Lalice. Binte Salacham, la Moukalsoum. Un grand hommage à tous ces grands. C'est dans les artistes disparus. Radio Galère, www.radiogalère.org. Une voix qui berce, une voix qui perce, que berce l'espoir. La Sénégalaise, Binta Sara Thiam. Et oui, notre coqueluche, et la Oum Kalsoum du Sénégal, j'ignore. Et qu'il repose en paix, Oum Kalsoum de l'Égypte, une artiste qui a fait le tour du monde sur scène internationale. Je vous rappelle donc 06 44 94 56 31. Et pour les amoureux du sport, justement, on vous invite pour ce Cannes 2005. Le Maroc attend l'Afrique pour le tirage au sort. Géant du football africain, le Maroc accueille les meilleures équipes du continent pour le tirage au sort de la 35e Coupe d'Afrique des Nations, 21 décembre jusqu'au 18 janvier, lundi à Rabat, et rêver de remporter enfin une deuxième couronne. Mmh. 5 ans avant de co-organiser la Coupe du Monde, le Royaume chérifien s'offre une répétition grandeur nature en recevant dans 6 villes Casablanca, Tanger, Marrakech, Rabat, Agadir et Fès. Un plateau de 26 équipes, le Ghana et le grand absent, le quadruple vainqueur du trophée avant de terminer dernier de son groupe de qualification. Le Lion peut perdre sa couronne, mais sa démarche n'a pas changé. Premier demi-finaliste africain d'une Coupe du Monde en 2022, le Maroc de Walid Regragui recherche une revanche après son échec dès les huitièmes de finale lors de la précédente édition contre l'Afrique du Sud 2-0. Avec Achraf Hakimi, vice-capitaine du Paris Saint-Germain, le jeune Brahim Diaz du Real Madrid, un statut de pays organisateur et le meilleur classement FIFA du continent. 14e, le Maroc partira comme souvent parmi les favoris, mais ça lui réussit guère quand il aura 2 ans. Grande puissance continentale, le Maroc n'a pourtant rapporté qu'une seule fois la CAN en 1976 en Éthiopie. La première fois qu'il avait organisé le tournoi en 1988, il s'était arrêté en demi-finale contre le Cameroun, fut vainqueur. h 23 sur la pendule de Radio Galère. En attendant, les techniciens de rétablir surtout les lignes qui permettent de voyager et de se connecter avec le monde et surtout débattre et créer des concepts et réalisations. Avant tout, vous. Faut pas que le cordonnier fasse le pain, donc il est à eux, les techniciens habilités, à pouvoir résoudre ce problème.
Ceux qui contestent, moi, je ne réponds plus, parce que lorsque je me suis rendu 2 fois en Égypte, donc j'étais à la source, les gens, ils sont d'accord. Comme quoi que les anciens, ceux qui ont fait cette civilisation, étaient noirs. Donc dès lors où à la source, les gens sont d'accord, il n'y a plus de discussion.
Nigamas, à découvrir sur scène au New Morning, rendez-vous le 1er juillet prochain. Merci à vous, professeur. Bon retour au bercail. Je vous invite à présent à un tour d'horizon d'actualité de ces dernières semaines. C'est ici et chez nous, le Zap Africanité.
La veuve de Papa Wemba ouvre la marche. En ce lundi 24 avril, un an jour pour jour après la mort de l'artiste, famille, amis et admirateurs viennent lui rendre hommage au cimetière Nécropole. En musique, c'est sans aucun doute le plus bel honneur.
Kunta Kinte, un esclave arraché à sa terre par des négriers pour un voyage sans retour vers l'Amérique du Nord. C'est dans cette cellule, sur l'île qui porte son nom, qu'il fut détenu par les Portugais au XVIIIe siècle.
Tout d'un coup, après quelques siècles, la France se réveille et découvre que l'Afrique existe. Mais je crains également que la France retourne dans son congélateur l'année prochaine.
Je pense que la France a vraiment une image forte à gagner en faisant cette restitution. Le fait que les différents gouvernements depuis l'indépendance aient extrêmement mal conservé le patrimoine de l'État est vraiment très dommage. Mais c'est une question différente.
Nous, ça fait 50 ans que notre culture est laissée à l'abandon. Et ceux qui réclament ce patrimoine, moi je leur demande de me trouver les 300 pièces qui ont disparu récemment de ce musée de les trouver d'abord avant de réclamer ceux qui sont en sécurité quelque part.
Luxor, en Égypte, où les amateurs d'art et d'antiquité vont pouvoir désormais admirer cette statue monumentale, celle de Ramsès II, dont la restauration vient d'être achevée.
Nous ne nous posons pas qu'à peindre. Nous défendons nos idées, nous essayons aussi de parler au reste du monde, de faire connaître aussi à d'autres publics que l'Afrique existe, que l'Afrique aussi se conjugue au pluriel. Ce n'est plus l'Afrique fermée à une certaine cliché.
56 ans après son assassinat, cette BD signée Michel Tsumbu raconte l'histoire de Lumumba depuis ses origines familiales jusqu'à son testament politique.
Cette année, c'est le jeune écrivain camerounais Max Loeb qui reçoit la récompense pour son livre Confidence, un ouvrage dans lequel il raconte, en se mettant à l'écoute d'une vieille femme, les luttes pour l'indépendance.
Original et décalé, qu'on ne peut me comparer, parfois complètement barré, ça peut la faire chavirer. Aïe maman, aïe maman, aïe maman, aïe maman.
Africanité sur Internet, sur tous les réseaux sociaux et bien sûr sur notre site tv5monde.com. Nous abordons aujourd'hui l'héritage de Cheikh Anta Diop. Nous passons à la partie culture en accueillant une artiste plasticienne de talent. Nous sommes heureux de l'accueillir ici sur ce plateau, Azama Lefiloché. Soyez la bienvenue. Vous êtes originaire du Congo Kinshasa. Vous êtes notamment remarquée par votre maîtrise de la technique du travail sur les tissus. On va en parler dans quelques instants. Lise-Laure, on parle également de l'actualité cinématographique en retrouvant Ramatou Keïta, que j'ai omis de présenter tout à l'heure, comme aussi une pionnière de la télévision, puisqu'avec Majesté, vous avez été l'une des premières présentatrices sur la télévision française, co-présentatrice avec un monsieur, ça ne me dit peut-être pas grand-chose à tout le monde, Bernard Rapp, l'assiette anglaise.
De la rédaction de France 2.
Tout à fait, de la rédaction de France Télévisions à l'époque, et que vous avez, du côté de votre militance, était entre autres vice-présidente, première vice-présidente de la FETAF, la Fédération des travailleurs africains de France.
Et en Europe.
Et en Europe. Voilà. Alors on va parler du film de Ramatou, qui est vraiment un excellent film avec des images incroyables. Et ça raconte, comme très peu de films en parlent, d'une histoire d'amour entre Tia, qui est une étudiante, qui est d'une famille aristocratique et qui rentre au Niger pour les vacances d'hiver. Et elle attend que le jeune homme qu'elle a rencontré sur le campus universitaire demande sa main. Mais vous allez voir, rien ne se passe comme prévu. Donc je vous propose de voir la bande-annonce de ce film, bande-annonce très romantique.
Thank you.
on est bercé par la musique, hein,
oui,
Ramatou.
La guitare sans rail de Ali Johnny Mega, qui est malheureusement mort quelques jours après le tournage du film. On lui rend hommage.
Alors justement, vous avez choisi donc de raconter, je disais, une histoire d'amour avec un jeune également, le jeune, en fait, le prétendant, oui, qui lui aussi est issu d'une famille aristocrate.
Voilà, d'abord, moi, l'Afrique qu'on voit en dehors de l'Afrique, je ne sais pas où est-ce que les gens vont la trouver, parce que moi, l'Afrique que je connais, c'est celle-là. C'est des gens beaux, on a de très beaux palais, c'est de très beaux costumes. On a des villes millénaires au Niger et dans le Sahel, voilà. Donc, j'ai voulu utiliser l'architecture Haoussa de Zender. On a aussi une architecture sans rail à Agadez ou à Djenné. Ça, c'est l'architecture de l'Eskia Mohamed. Donc, j'ai voulu déjà montrer la beauté de ce qu'on est. Et puis, raconter une histoire d'amour, parce qu'apparemment, le monde entier a le droit de raconter une histoire d'amour, des histoires d'amour, sauf nous.
On est pudique, parfois.
Non, mais nous, quand on parle de nous, c'est des guerres, c'est des gens battus. Enfin, bon, pas partout, il y a des guerres. Vous savez, en Europe, il y a plein de guerres.
Etc.
La famine, elle existe.
Absolument.
Mais enfin, on vit. Absolument. Et on a des histoires d'amour. Et donc, ce garçon qu'elle rencontre, c'est le fils de l'émir de Maïdougouri. Parce que Maïdougouri, c'est une ville, c'est une cité ancienne. C'est une des capitales du royaume de Kanem-Bornou. Mmh. Et alors, quand j'ai écrit ce scénario il y a 10 ans, personne ne connaissait Maïdougouri, il n'y avait que moi qui connaissais Maïdougouri. Aujourd'hui, malheureusement, Maïdougouri, voilà, c'est le fief de Boko Haram et tout ça. Et donc, et ce garçon, voilà, il est aussi de l'émirat. Donc, je raconte une histoire d'amour où il n'y a pas de problème apparemment, puisque les deux familles, c'est des familles aristocratiques, aisées et tout ça. Sauf qu'il y a un petit couac, il y a un petit problème, mais ça, pour ça, il faut voir le film.
Et le film a d'ailleurs été primé au dernier FESPACO. Est-ce que vous êtes nostalgique?
Il a été nominé au Golden Gate de San Francisco, et je viens de Buenos Aires, il fait le monde.
Est-ce que vous êtes nostalgique de cette Afrique dont vous parliez tout à l'heure? Cette Afrique ancienne?
Non, je ne suis pas nostalgique, elle existe. Elle n'est pas ancienne, elle est ancienne pour vous, peut-être, c'est pas chez vous, ou bien vous voyez ça au cinéma. Moi, ces palais, ils existent. Et d'ailleurs, je lance un appel encore, parce qu'on est en train de les détruire. Nos anciennes villes, elles existent. Le sultanat du Damagaran, il existe. Et je parle du sultanat du Damagaran parce que mon père a grandi au sultanat, sa sœur aînée était mariée au sultan, donc elle a voulu amener son dernier petit frère avec elle. Il a grandi au sultanat, mais bon, c'est aussi une famille.
C'est la richesse du Niger. Vous savez qu'ailleurs, parfois, on détruit.
Mais bien sûr, mais nous aussi, on commence à détruire.
C'est très intéressant ce que vous dites, excusez-moi, ce que vous dites, Ramatou. Ça me permet de poser la question au professeur Théophile Obenga. Lorsqu'on dit aux Africains ou à d'autres peuples que l'apogée des civilisations est cyclique, l'Égypte, la Grèce, la Rome antique, etc. Où sont les vestiges, Mono Mono Tapa? On ne voit pas cette grandeur africaine, des vestiges qui prouvent qu'effectivement l'Afrique, à un moment donné, a été à la pointe, à la cime des civilisations.
Je pense qu'on a été détruit. Il y a eu des invasions et puis il fallait effacer, parce que c'est ce qu'il disait tout à l'heure l'égyptologue de Burkina, il fallait effacer complètement les traces, puisqu'il fallait se... En fait, quand Napoléon est arrivé en Égypte dans sa conquête, qu'ils ont découvert la civilisation égyptienne et cette beauté, ils ont traité ça comme des trucs de nègres, ils ont minoré. C'est quand ils ont compris que leur culture s'est inspirée de l'Égypte antique, que les palais de Grèce antique et même ici, vous savez, quand vous allez aux Tuileries et au Louvre, ben, vous allez visiter le palais de Hatshepsut.
C'est la copie conforme. On dira que c'est l'idéologie, professeur Obenga.
C'est copie conforme.
Non, mais là, c'est tout à fait éblouissant ce que Ramatou nous dit. Effectivement, à part quelques poètes, l'Afrique n'insiste jamais sur l'excellence, sur la beauté, sur le merveilleux, alors que c'est un continent qui est presque gâté à tous les points de vue. On a une conscience, plutôt une mauvaise conscience de nous-mêmes, conscience du malheur, conscience qu'on ne peut rien, conscience que c'est trop dur, conscience qu'on n'arrive pas à nous organiser, alors que sur l'ensemble du continent africain, autrefois, partout, il n'y avait que de grands empires, des grands royaumes, des émirats, des royautés, des empires, partout, même en pleine forêt équatoriale. C'était jamais vide. Hein, le Monomota, vous évoquez, les Cuba, les Congo, les Lagos, etc. Mais les gens ont brûlé. Oui. Il n'y a plus de bronze. il y a plus de bronze du Ifeilé au British Museum à Londres que Ifé même. On avait brûlé au Nigeria, on avait brûlé Ramatou, et rapporté.
Oui, faire un film, c'est une tâche pharaonique. D'ailleurs, les premières reines du monde sont égyptiennes et donc, entre autres, ancêtres de l'humanité féminine, hein, Isis, la déesse de la fécondité, entre autres. 10 ans pour aboutir et une fierté, 100% produit en Afrique.
Oui, alors il y a cette fierté que le film et les fonds sont 100% africains. D'ailleurs, j'aimerais vraiment remercier ces pays qui ont compris mon travail, ma démarche, et qui sont venus à moi et au Niger. Je suis portée par un pays pour soutenir ce film. D'ailleurs, je vais les citer. Il y a d'abord l'Algérie, c'est le premier qui a cru à mon travail. Ensuite, il y a eu le Congo-Brazzaville. Il y a eu le Rwanda, le Royaume du Maroc et l'Ouganda. Alors, et puis le Niger, bien sûr, et puis le PANAF, le Festival panafricain des arts et de la culture. Et donc ça, je suis vraiment fière parce que j'ai réuni tout le continent. Hein. J'ai l'Est, le Nord, l'Ouest, voilà. Donc, ça a marché. Alors voilà, ça a pris quand même beaucoup, beaucoup d'années.
Mais le film est là. Et il voyage. Alors je propose maintenant de découvrir une carte blanche que l'émission offre à présent à une artiste plasticienne. Je me retourne vers vous, Lise-Laure. Elle est extraordinaire, éblouissante. Elle est originaire de la RDC, Azama Les Filochés, et qui travaille avec talent la matière brute des tissus traditionnel.
Et justement, Azama, pourquoi vous travaillez sur la matière? Pourquoi vous avez choisi le tissu comme matière?
Alors, c'est toute une histoire qui est assez profonde. Ça remonte d'il y a une trentaine d'années. Donc, je commençais à... D'abord, c'était les touchés, les rapports avec la matière, la sensation. Et envahi d'émotions profondes, ces tissus-là m'a un peu apaisée. En m'apaisant, je l'ai déchiré, je l'ai filoché. Plus j'ai filoché, je me sentais bien. C'était juste aller chercher dans ces tissus-là la lumière, comment faire passer la lumière, s'éloigner du néant, mais garder que le beau, léger comme une plume.
Le beau dont on parlait tout à l'heure,
elle parle comme une poète.
Et il y avait des raisons personnelles pour que vous fassiez ce travail de la manière dont vous venez très, très poétiquement de le décrire.
Alors, justement, ces raisons personnelles que je ne vais pas évoquer sur le plateau, puisque ça m'est intimement lié, que je garde pour moi. Par contre, ma recherche, c'était vraiment comment faire passer la lumière, que ça reste une notion universelle. Parce que j'ai pris conscience très vite que la vie, elle était fragile. Mais elle était très, très belle, même si elle ne tient qu'à un fil. Donc cette notion-là, on retrouve partout au monde. Et j'emprunte toujours la citation d'Anne-Lise qui dit « Parfois, j'ai l'impression que ma vie est comme un tricot raté. Tout est filoché avec des morceaux manquants. » Alors, nous sommes tous effilochés. Nous avons
lui
tous...
Lui un peu plus, hein, à Bobé.
Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.
Exactement. Nous sommes tous effilochés. Nous avons tous des morceaux manquants. L'essentiel, ce n'est pas de savoir qui en a le plus ou le moins. L'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait et comment on laisse passer la lumière.
D'accord, ça c'est pour
beau,
moi.
Hein.
Alors, moi, je suis...
Voilà, je reviens donc pour vous rendre hommage à Cheikh Diop et au poulain, donc Théophile Obenga, et puis à notre regretté journaliste animateur Amobe Mbenge, et qui nous a quittés à 52 ans. Et oui, qu'il repose en paix. Et c'est pour rejoindre aussi un communiqué sur l'actualité, puisque c'est un grand vide pour Marseille. C'est aussi rendre hommage à Aïdara Nassourdine, qui est aussi un élu, mais qu'un imam avéré. Et bien sûr, ses prières et ses méditations, ils étaient la bienvenue à la mosquée Bilal. Et remercions bien sûr la présence de Jimmy. Je vous rappelle donc à cette cérémonie donc funéraire, nous avons eu des concepts de réalisation et seules des images privées qui vont rejoindre la famille jusqu'à la famille dans nos pays respectifs, le Mali, à Bamako particulièrement, et d'autres qui vont permettre aussi de trouver ce grand public, la cité, que beaucoup de gens d'entre vous, nombreuses, ont accompagné donc Dr Issa à sa dernière demeure au carré musulman donc à Saint-Jérôme. Et pour revenir, donc, dimanche prochain, peut-être, il sera notre invité. Il s'agit donc de cet imam, cet élu, Donc, ils plaident pour une pétition et ceux qui reçoivent le lien peuvent le partager et ou même, pourquoi pas, le signer pour une place, donc, Issa Kone à Marseille. Lancé le 16 février 2025. Signature, donc, 957 prochains. Donc, objectif, c'est atteindre les 1000. Et je vous rappelle, donc, 204 personnes ont déjà signé cette semaine. Signé pétition, donc, pourquoi cette pétition est importante? Lancée par Aïdari Nassourdine. Espace presse pour une place Issa Kone, donc à Marseille. Une lettre circulaire, communiqué circulaire donc, au maire donc, Benoît Payan. Il est des hommes qui ne marquent pas seulement les cœurs, mais l'âme même d'une ville. Docteur Issa Kone était cela. Son départ laisse un vide immense, mais aussi une empreinte indélébile, une présence qui résonne encore dans les rues de Marseille, dans ses ruelles populaires, sur ses places animées, dans ses brassages donc incessants qui fait l'essence même de notre cité. Nous, habitants de Marseille, patients d'un jour ou de toujours, passant éclairés par son regard bienveillant, son sourire envoûtant ou ses mots justes, vous écrivons avec un espoir voir naître une place Issa Kone au cœur de notre ville. Pourquoi une place? Parce que Issa Kone n'était pas un homme de couloir feutré, ni de porte close. Il était un homme d'espace et de rencontre, un passeur d'histoire, un carrefour de civilisation à lui seul. Sa célèbre salle d'attente était tout un monde et un village où riches et modestes, jeunes et vieux, blancs, noirs, jaunes ou rouges se retrouvaient, se découvraient, là où le temps semblait suspendu. Un lieu improbable où les destins se croisaient et où chacun apprenait à faire communauté. Issa était le plus africain des Marseillais et le plus marseillais des Africains. Mais ceux qui l'ont connu savent qu'il était bien au-delà des appartenances. Il incarnait Marseille dans ce qu'elle a plus noble, sa générosité, sa disponibilité, sa capacité à rassembler et soigner les corps et aussi les âmes. Pour certains, il était le dernier rempart contre la solitude et la précarité. Pour d'autres, un phare de la brune des jours difficiles. Il tendait la main sans jamais compter. Il écoutait sans jamais juger. Ce Marseillais pluriel métissé, brassé, et il le faisait parler. Il faisait vivre, lui donnant un visage humain, une chaleur, une voix. Monsieur le maire, une ville ne construit pas seulement avec des pierres, mais avec sa mémoire, où il y a des noms qui ne doivent pas s'effacer. Nous devons qu'un lieu porte le sien, que les générations à venir sachent qu'il est vécu, un homme qui fut de sa vie serment avec les autres. Nous demandons une place, docteur Kone, non seulement pour honorer un nom, mais pour célébrer un lien, ce lien indéfectible entre les hommes et les femmes de Marseille, ce lien qui a sévi, tissé, renforcé jusqu'à son dernier souffle. Dans l'attente de votre bienveillance, recevrez, monsieur le maire, l'expression de notre profond respect à Darina Dessine. Et oui, c'est voilà, président aussi du conseil représentatif des associations noires. Voilà. En tout cas, merci Aïdari et sa femme aussi, elle est l'élu de cette ville, en tout cas pour une cause. Soyons d'accord pour être d'accord pour une fois. Et oui, il y a aussi à venir un lieu pour la mémoire de Pape Diouf et que nous rendons aussi à ceux qui sont derrière eux, comme les élus Michel Rabirola, et qui est premier adjoint donc, à l'hôtel de ville à Marseille. Voilà. Et tout à l'heure, je voudrais juste, Jimmy, puisque la famille ne cesse de remercier ce reporter, ce TV Life, et comme si vous étiez dans votre cité si proche de vous, elle est aussi si proche de vous. Et donc, il va nous dire tout simplement le procédé. Nous avons fait un concept et il a bien, bien soigné parce que en voyant ces images, ces cérémonies funéraires, sincèrement, ce n'est pas un chef d'État, ce n'était pas un ministre qui a disparu. C'est un homme qui avait un cœur, une âme et tout représentait la ville. Bouillon de monde, blanc, jaune, rouge, et tout le monde était là pour méditer, pour prier. En tout cas, qu'il repose en paix. Voilà. et puisque les numéros encore ne sont pas opérationnels pour pouvoir intervenir, on vous offre aussi le numéro WhatsApp 06 44 94 56 31. La musique qui accompagne cette cérémonie funéraire, c'est toute la musique authentique du vieux Soudan, qui est le Mali. Et du Mali qui répertue, qui essayait justement pendant ses pertes, période embouchure du fleuve Falémé qui se jette au fleuve du Sénégal et qui se retrouve à l'embouchure d'Ondar, la vieille capitale du Sénégal, et en rappelant bien sûr le premier président, donc le gouverneur Federbe, et c'est là d'où toute l'histoire du Sénégal est partie, en tout cas la mémoire et la force des peuples. Ali Falka Touré, pour rejoindre justement cette musique authentique que Jimmy avait choisie. En tout cas, je vous invite d'être abonné sur son site. Il y a de quoi découvrir encore mieux, avant tout, vous. Adieu aussi le journaliste animateur noir Amobe Mevenge. Après, bien sûr, cette conférence inédite, la rencontre avec le président Macron et la jeunesse africaine à Montpellier, c'était une... On peut revoir l'image, mais le présent sort du passé, il repose en paix. Comme notre journaliste animateur Claudie Siard. Et n'a jamais vu le lion de Tanzanie, Simba, qui demande de déclarer la guerre au lion d'Atlas du Maroc, ou bien au lion Teranga du Sénégal, ou au lion indomptable, bien sûr, du Cameroun, pour vous dire tout simplement, le mal animal, c'est l'homme. Le Jimi Hendrix, le blues malien, s'est éteint aux États-Unis. Et oui, il y a aussi la relève, son fils, mais rien ne plus sera jamais comme avant. Pour ce mois saint d'un corps et d'un amour saint, Ramadan Moubarak, que nous avons avec l'introduction de Saada Bint Thiam, qui est notre coqueluche, notre Oum Kalsoum Junior. Rendre aussi hommage à Victor Jazkin de Kenya, de Tanzanie, de Ouganda, qui se rassemble le Swahili. Ali Falka Touré Mandé Mori Breté Mandé Mori. Pour rendre hommage à Victor Jazkin, et oui, d'autres rythmes décibels en folie, rejoindre l'archipel Tanzanie, Comores, Malgache, Ouganda, Centrafrique, Zambie. Elle est dédiée à tous les mamans du monde, enfants du monde. Mami, le lion Simba. Il se reconnaît par le nom parce que vous l'avez désigné Keita. Vous l'avez désigné Diarra. Vous l'avez désigné Koné. Vous l'avez désigné Souma de la Guinée-Conakry. Et Diata du sud du Sénégal. Le lion peut perdre sa couronne, mais sa démarche n'a pas changé. Le lion se reconnaît quand vous l'appelez Gaïndé. Il se reconnaît par lui-même, le grand géant, le roi de la forêt. Il nous reste 8 minutes sur la pendule de Radio Galère pour revenir, bien sûr, à la mémoire, à l'écriture, le communiqué direct qui rejoint donc Aïdari et qui demande pétition et un communiqué qui est désigné, dressé donc au maire Benoît Payan pour qu'il y ait un lieu digne de ce nom, un espace ou une rue. Voilà. Et nous allons partir avec le travail extraordinaire, une musique authentique. Il faut être chercheur pour être chercheur-longue. Moi qui suis d'origine malienne, qui connais la musique malienne, mais qui m'a plongé dans l'univers. Et oui, Tchossan, histoire raconte. On a eu des mondes, mais ce monde, il était unique et exceptionnel. Bouillon de monde, blanc, noir, jaune, rouge, arabe, qui vous voulez, sont venus leur faire un dernier hommage. En tout cas, ceux qui ont fait le déplacement, elle est bénéfique pour vous-même. Je rejoins Jimmy, mon cher. Merci de se donner un peu de temps. Et ce temps-là, je Bonjour. L'ai dit à l'introduction en disant, donnons un peu de temps à chacun. Mais je pense que docteur Koné, justement, là je t'entends.
Un deux.
Voilà, maintenant. Super. Docteur Koné, c'était un homme exceptionnel. D'abord,
bonjour à toi.
J'ai rencontré tous les auditeurs hier. Et qui te remercie, qui n'arrête pas de remercier. Vous avez eu des contacts ensemble avec sa famille, même ceux qui sont de retour au Mali. Et ils s'en souviendront. J'ai eu des images, j'ai eu des extraits, des enregistrements audio. Mais j'ai l'impression de voir la qualité de ton image que je viens de recevoir. Et en deux parties. Mais ce travail, tu peux nous le définir? Parce que les gens demandent peut-être le temps de le visionner, de les connaître. Et on a, pour le respect de la famille, tu as fait un concept qui permet se priver de la famille et ceux à qui on pourrait, pourquoi pas, partager pour que les gens sachent, soyons bien pour la loi du bien, pour que nous soyons un jour accompagnés aussi à sa dernière demeure.
Eh bien, l'idée, c'était d'accompagner en fait, Issa Koné en fait, dans sa dernière demeure et le partager en fait, surtout avec sa famille qui est au Mali. Et souvent, bah, on fait des lives, mais des lives touchent beaucoup plus de personnes. Et on n'est pas sûr que la famille veulent avoir
oui,
ça.
Tout à fait. Des retours.
L'idée, c'était d'avoir en fait une reconstruction de en filmer en fait, hein, pas en live, mais en filmé, de manière à pouvoir envoyer après la vidéo à la famille qui était sur place, qui n'a pas eu l'occasion de voir la cérémonie.
Puisque on avait refusé de toute façon le visa à ce journaliste qui devrait faire le déplacement.
C'est ça.
Et pour que, quelle que soit la couleur d'un cadavre, mérite d'être bien enterré. Donc je pense qu'il y a eu un bon enterrement. Tu as été le témoin de cela.
Ouais.
Et s'il était malade, il aurait peut-être sa dernière volonté de se trouver enterré au pays pour que le repos éternel et par la volonté de ses enfants. Donc on ne peut pas s'y opposer parce que c'est les enfants qui sont quand même légitimes à cela. Et pour défaire, donc il faut 5 ans après. Et qu'est-ce que tu peux retenir à, puisqu'à partir du moment, je te le dis, puisque je pense comme toi, il n'y a pas un mauvais mort, un bon mort. Celle d'Erissa nous a tous marqués.
C'est clair. C'est arrivé brutalement. Brutalement, je me rappelle encore, ben, la semaine d'avant, je l'avais croisé dans un événement. Voilà, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Toujours au même. Il est toujours fidèle à lui-même, c'est-à-dire ben, toujours joyeux, toujours en été content de se voir. Voilà. Et quand on m'a appris une semaine après qu'il était décédé, enfin, je ne m'attendais pas vraiment. Et c'est surtout le fait que, bon, qu'il n'était pas malade, apparemment. Voilà, je ne sais pas vraiment. Mais il n'était pas malade et c'est arrivé brutalement. Et c'est pour vous dire que, ben, qu'on n'est rien sur Terre et profitant au fait au maximum de ce qu'on vit et le partager en fait à bon escient envers les autres.
En tout cas, si tout le monde fait ce que tu fais, les choses iront mieux.
Et essaie de prendre de l'eau. Parce que,
oui, tout à fait. Bon, je suis un peu si loin, mais ouais. Bon. Et parce que je pense que c'est profond. Voilà. Et je vous rappelle encore, pour revenir à ce communiqué de Haïdargui, la Surdine, qui est un élu et qui travaille beaucoup dans la vie associative, qui est imam, et qu'il avait donné donc l'introduction pour une lecture du Coran à la mémoire de Dr Issa. Et donc, c'est un grand plaisir de signer cette pétition pour qu'on y trouve juste ce qu'il faut, la mémoire et la force des peuples, pour que ses enfants, ses amis se souviennent de Dr Kone. Voilà. Et je vous rappelle donc cette image. C'est inédit. Oui. Alors, Jimmy, oui. D'abord, si jeune, que Dieu te garde aussi longtemps, santé de fer et sans ordonnance. Comment peut-on se connecter et s'abonner à ce TV qui est si jeune, mais le vécu aussi mérite de saluer, parce qu'à Marseille, on dit tout commence, mais ça s'éteint rapidement. Comme si on n'est pas prêt à accompagner d'abord la presse écrite, la presse audiovisuelle. Ouais. Et c'est une manière de bon vivre dans cette cité. Et tu nous orientes quand même quelque chose qui est un concept. Et comment peut-on se connecter et s'abonner chez toi?
Alors, l'idée, c'était de réunir en fait une plateforme, sur une plateforme, tout mon média, aussi bien le côté radio que la télé qui est là maintenant et le magazine qui arrive bientôt. C'est un média qui met en lumière la culture afro au sens large et qui, en parallèle de tout ça, permet donc pouvoir faire une communication sur tout événement, toute personne, toute culture, de manière à pouvoir en fait à apporter une meilleure visibilité. Alors pour s'y connecter, en fait, c'est simple, ben, il suffit simplement de télécharger une application. Voilà, elle est actuellement déjà sur Apple Store. Voilà, elle va arriver sur Android. Mais l'avantage, c'est que c'est une web app, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir déjà sur le net.
Sur le net.
Il suffit simplement de taper Black Feeling Media et on la trouve.
Tout à fait. En tout cas, vous avez été remercié à l'occasion de cette...
On prend de l'eau pour que ça passe.
Oui. En tout cas, merci d'abord pour ce verre d'eau. Hein. C'est, voilà, l'eau de toutes ses formes. Et bon, dis-moi, quel message pour apporter aussi à cette cité quand même qui s'endort?
À quelle cité tu parles?
La cité Marseille et sa juridiction.
Ben, en fait, ben, tu sais, ben, dans le sud, on a un tempérament à se laisser vivre. Et voilà, moi, j'essaie de dynamiser un peu tout ça, de manière à pouvoir, en fait, ben, être un peu comme les grandes villes, style Paris ou autre.
Ouais, on reconnaît que Paris, ça bouge.
Paris, Lyon, par Paris, London ou d'autres villes.
D'autres villes d'Europe.
Qui bougent bien. Et c'est vrai que... Au niveau de la culture afro à Marseille, auparavant, avant le Covid, je peux dire que ça bougeait. Ça bougeait, maintenant ça a pris vraiment un frein, voilà. Et on essaie toujours de dynamiser de manière à montrer qu'il y a des événements et que l'idée c'est de se rassembler et de les centraliser.
Tout à fait.
Pour se dire, ben voilà, il y a plusieurs événements, il n'y a pas qu'un seul événement à droite ou à gauche. Que ce soit culturel ou événementiel ou artistique, mais voilà, les centraliser et pour pouvoir en fait avoir une meilleure visibilité.
Et qu'est-ce que vous évoquez dans le journal à venir? Il sera intitulé quoi? Sur le cinéma, l'art, la musique, et à qui vous allez, dis-moi, décrire dans ce magazine qui sera à la portée de tout le monde?
Alors, le magazine en fait sera le reflet en fait du média. c'est-à-dire le média englobe en fait toute la culture afro, c'est-à-dire aussi bien musicale qu'artistique, que cinématographique, que sportive, que beauté. Ça regroupe vraiment tout, aussi bien sur la plateforme radio, voilà. La télé, pareil, des reportages qui sont à droite à gauche, sur des entrepreneurs, sur des sociétés, sur des artistes, sur des événements, voilà. Et sur le magazine sera un peu dans la même mouvance, mais sous forme écrite. Et l'avantage, c'est que ça sera un magazine numérique qui permet en fait de pouvoir, de son téléphone, pouvoir naviguer sur les pages et avoir un côté enrichi. C'est-à-dire que si sur un magazine classique, ben on a une photo, voilà. Là, sur ce magazine numérique, on pourra cliquer et avoir plusieurs photos qui vont défiler. Voilà. Sur un autre article, ben, un exemple, un article d'une interview d'artiste, eh ben, tu pourras avoir en fait la photo initiale de l'artiste. Et en dessous, tu pourras cliquer pour écouter l'interview.
Tout à fait.
Tout en ayant l'article sous les yeux.
En tout cas, si je comprends bien, c'est un passerelle un peu l'Afrique aux Antilles et en Europe.
Bien
et
sûr.
L'Asie aussi, l'Amérique, puisqu'on peut se connecter dans le monde entier.
C'est clair.
Et tes invités seront les bienvenus. Et en tout cas, on t'encourage. Notre émission a déjà touché à sa fin. Nous avons dépassé 3 minutes. Et donc, Didier Youssouf, peut-être abonnez-moi absent. En tout cas, je dis pour ce mois de béni de Ramadan,
ouais.
Quel message pour ces fidèles?
Ah ben, le message, c'est un bon Ramadan. C'est clair.
C'est très gentil.
Voilà, malgré que moi je ne le suis pas, mais je suis solidaire. J'ai même envoyé en fait sur les réseaux un bon Ramadan. Voilà, l'idée c'est de toujours en fait respecter les différentes communautés.
Tout à fait. Votre religion, ma religion.
C'est
tout
clair.
À fait. Tout à fait. En tout cas, je te remercie et pour ton passage. Et donc prochainement, nous allons se retrouver à la famille, leur soutenir et pour cette épreuve difficile.
Ouais.
La mort, c'est aussi l'amour nous avons perdu. Tous des personnes qu'on aime, d'ailleurs tu connais le cas, c'est douloureux, mais accepter l'inacceptable, en tout cas que Dieu vous préserve et surtout préserve les arrières de Dr Koné. On se dit au revoir.
Au revoir. Okay.